Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour et bienvenue dans Vivante Église. Nous partons au cœur du sanctuaire de Lourdes pour découvrir comment la confession et l'écoute se vivent ici, là où la Vierge Marie a confié à Bernadette son nom « Je suis l'Immaculée Conception » et où autant de pèlerins viennent chercher paix et lumière. À Lourdes, il y a les pas des pèlerins, les cierges, la grotte, et puis il y a ces lieux plus discrets, presque cachés, où des vies basculent en silence. Aujourd'hui, dans cette émission de Vivante Église, nous allons un peu découvrir ces espaces où la parole se libère et où se rejouent parfois des années de vie. Le point écoute et la chapelle des confessions. Avec moi, deux témoins du quotidien de Lourdes, le père Christophe Zilanda, responsable du point écoute. Bonjour père.
Bonjour.
Et le père Hervé Rem, chapelain au sanctuaire de Lourdes. Bonjour père.
Bonjour.
Alors, merci à tous les deux, père Hervé et père Christophe. Pour commencer, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'à Lourdes, les gens, les pèlerins qui s'arrêtent ici dans ce sanctuaire osent parler? Je vais peut-être m'adresser avec le responsable du point écoute, père Christophe.
Alors moi je suis convaincu que le pèlerin qui vient au sanctuaire, il entre dans la grâce de Dieu presque immédiatement. Il se laisse toucher par cette grâce et voilà, il souhaite exprimer ce qu'il vit. Parfois, c'est la souffrance qu'il veut la raconter, parfois c'est la grâce reçue, parfois tout simplement dire comment ils ont passé la journée au sanctuaire de Lourdes. Donc je crois que c'est le lieu qui est propice à l'ouverture de cœur, voilà, à une rencontre d'écoute.
Et pour vous, Père Hervé?
Alors, oui, c'est vrai, je crois que la grâce nous devance et parfois les gens sont conduits à Lourdes aussi par grâce parce que ils en ont entendu parler par une grand-mère, par une maman ou par un ami, et ils sont là avec peut-être une idée précise dans la tête, justement celle de venir se confesser aussi à Lourdes parce que c'est Lourdes.
Alors pour vous, vous êtes chapelain, vous êtes missionné ici dans ce sanctuaire marial qui est connu dans le monde entier. Qu'est-ce qui est si particulier ici, vous expérimentant en tant que prêtre, cette grâce mariale? J'ai bien envie de vous interroger, Père Hervé, parce que vous aurez la parole aussi pour nous faire entrer dans ce confessionnal, cette chapelle des confessions.
Oui.
C'est votre dure mission.
Alors la grâce mariale de Lourdes, je l'aperçois non pas comme une espèce de conflit entre Marie et son fils, mais comme au contraire un pont. Marie est celle qui nous conduit au Christ. Et souvent, les gens viennent à la foi. Je l'ai vécu moi-même dans ma famille avec ma maman, qui aimait beaucoup Notre-Dame de Lourdes, mais qui n'aurait pas été capable de dire des choses sur Dieu, le Christ, etc. Mais elle avait accès, je pense, à Dieu par la figure maternelle de Marie, qui est très humaine, et en même temps, qui est du côté de Dieu. Donc, cet amour pour Marie, ça nous conduit naturellement à Dieu, au Christ et au sacrement.
Allez-y.
Oui, tout de suite, ce sont les paroles de Marie elle-même qui me viennent à la tête. Ça signifie « Allez dire aux prêtres que l'on construise ici une chapelle et qu'on y vienne en procession ». C'est elle qui a inventé ce lieu. C'est elle qui a souhaité qu'on y vienne pour la rencontrer. Elle nous conduit toujours vers son fils Jésus.
Qu'est-ce que ce sanctuaire a de si particulier pour le monde aujourd'hui, dans ces temps et ce troisième millénaire? Père Hervé.
Alors, je pense qu'il y a cette fascination, mais au sens d'une attirance que je qualifierais d'un peu mystique, pour sortir les gros mots, pour la grotte. Voilà, les gens viennent à la grotte parce qu'ils y sont attirés. J'ai entendu des gens non-croyants qui disent ici, il se passe quelque chose, il y a quelque chose. Ils ne savent pas qu'en dire de plus, mais ils le sentent, ils l'éprouvent. C'est plus qu'émotionnel, c'est, j'allais dire, presque existentiel. Ils sont là à la grotte et il se passe quelque chose de l'ordre d'une rencontre avec plus grand que nous.
Je suis tout à fait d'accord que la grotte, c'est le cœur du sanctuaire qui attire. Mais parfois, quand j'interroge mes compatriotes, le Polonais, pourquoi vous êtes venu à Lourdes? On a aussi un sanctuaire à Częstochowa. Il dit, ah, ici, il y a beaucoup de malades. Ici, il y a des miracles. C'est quelque chose de très important. pour le pèlerin.
Alors, dans cette émission de Vue en Église aujourd'hui, j'ai bien envie de faire découvrir à beaucoup de nos auditeurs ce point écoute qui existe donc ici à Lourdes. Et c'est vous qui en êtes responsable. Père Christophe, racontez-nous un petit peu le comment est né ce point écoute.
Alors, le point écoute est né il y a quelques années. D'abord, c'était le diacre François Fouillet qui en était responsable. Et à l'époque, il y avait presque un confessionnal dans la chapelle de confession. Après, petit à petit, on sentait que peut-être il faut distinguer la confession de l'écoute spirituelle. Et la pandémie, pour nous, était un moment très difficile pour nous tous, n'est-ce pas? Et au moment du déconfinement, nous nous sommes dit, il faut maintenant accueillir tous ceux qui auront besoin de nous raconter comment ils ont passé ce temps difficile de pandémie. Alors tout de suite, on a créé un lieu qui s'appelle le Point Écoute, et c'est là que nous recevons le pèlerin qui veut bien.
Alors qu'est-ce qui s'y vit? Comment concrètement vous organisez un petit peu ce lieu du Point Écoute? Ce sont tous les chapelains qui y participent. Il y a une formation particulière pour cette écoute-là, Père Christophe?
Les chapelains ne sont pas nombreux au Point d'Écoute. Il y a aussi la permanence au centre d'information qu'on peut rencontrer des chapelains presque tous les jours. Le point, écoute, l'équipe est constituée de laïcs, de personnes consacrées, religieuses, vierges consacrées, le diacre permanent. Et il y a aussi de chapelains. Ce sont des personnes formées à l'écoute spirituelle. Il y a en France beaucoup de possibilités pour suivre une formation pareille. Moi-même, j'étais formé au Châtelard, donc au centre des jésuites, près de Lyon. C'est la formation de 2 années, donc c'était assez profond que j'ai beaucoup bénéficié. Alors, on ouvre à 10h, on écoute jusqu'à midi. Ensuite, c'est de 14h à 18h. 3 tranches horaires, 3 écoutants différents. Pour la permanence de la journée.
Est-ce qu'on peut vous demander quels sont un peu les profils qui, passent et frappent à la porte de ce point écoute?
C'est vraiment... Je pense que le plus grand nombre de cas, je peux dire comme ça, de situations qui nous sont racontées concernent la vie familiale. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui veulent raconter leur maladie. Je suis en phase finale d'un cancer. Le médecin m'a dit ceci, c'est là, ça m'accable, je ne sais pas, je cherche une espérance. Après, le deuil, le divorce, et aussi pas mal quand même de personnes qui viennent parce qu'ils sont interrogés sur tout ce qu'ils voient à Lourdes. Donc, les personnes qui ne pratiquent pas au quotidien, mais qui ont besoin d'être aidées un petit peu dans cette démarche, retour à l'Église, je dirais comme ça. Je préfère retour au Christ. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a des mouvements intérieurs dans leur cœur. Ils ont besoin de partager. Ils ont besoin d'entendre une parole qui encourage, une parole qui les aide à cheminer vers le Christ.
Est-ce qu'il y a une durée particulière de ce temps aussi d'entretien, qui est un temps spécifique à l'écoute?
Alors, la règle que nous nous sommes donnée, c'est 45 minutes, pas plus que ça, mais il arrive que ce soit 1h15, 1h30. Moi-même, j'ai vécu un cas comme ça. Ça dure 1h30 minutes parce qu'une femme a raconté le décès, le suicide de sa fille. Elle avait vraiment besoin de parler. Imaginez que quelqu'un vous parle pendant 1h30 minutes sans arrêt. Elle parlait tout le temps. Moi, j'étais juste présent. Ce qui m'a vraiment émerveillé, c'était la finale. Elle a dit, maintenant j'ai l'impression que je fais mon deuil parce que j'ai pu raconter à quelqu'un ce chagrin qui était la mort de ma fille.
Donc on peut entendre que cette écoute d'1h30 où vous écoutez, Père Christophe. C'est un lieu de...
Soyons d'accord, c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. Donc la durée, c'est 45 minutes.
Normalement.
On en revient à l'écoute. Cette écoute devient quelque peu réparation et guérison. Et au fond, il y a ce temps de miracle de l'écoute.
Oui, quelqu'un a dit que c'est le plus grand cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un. C'est de l'écouter, c'est de lui dire, voilà, tu es important, tu es intéressant, je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'accueillir, lui donner de l'attention, une présence affectueuse, vous voyez ça. Tout le monde en a besoin de quelqu'un qui se met à son écoute. On expérimente ça au point écoute. Si on peut parler quelque chose de grâce, voilà, qui nous accompagne, c'est ça. Une fois que la personne a terminé, elle dit... Ah, ça fait du bien, merci. C'est tout. C'est tout. Il y a des personnes qui ne vous demandent pas de conseils. Dites-moi qu'est-ce que je dois faire parce que voilà ma situation. Tout simplement, ils ont besoin de raconter quelque chose qu'ils vivent, mettre des mots sur leur souffrance.
Donc, au fond, tout simplement, être écouté. Donc, chers auditeurs, si... vous arrêtez et faites une petite halte, peut-être par curiosité, dans ce beau sanctuaire avec cette grâce mariale de la Vierge Marie. Si vous avez besoin aussi de dire, de vous raconter, eh bien, n'hésitez pas à aller à ce pôle point écoute. Vous restez avec nous durant cette émission.
J'y suis là.
Vous êtes là, vous restez, vous écoutez. On va écouter le Père Hervé. Vous avez envie de réagir? Alors, vous allez intervenir dans ce Vivant Église. Père Hervé Rem, sur cette chapelle qui est connue d'un grand nombre, Lourdes, ce sont les malades, ce sont les miracles, et ces miracles se vivent aussi. J'ai bien envie de parler des miracles de la confession avec vous pour introduire un peu ce sujet qui peut être bien délicat, parce que quand on parle de confession, on se dit, mais pas loin, il y a peut-être péché, et c'est quoi le péché? Mais quels sont les miracles, au fond, de la confession, vous, chapelain, ici?
Alors, si je peux me permettre, avant de répondre à la question, j'aimerais vraiment réagir positivement à ce que j'ai entendu de la bouche du Père Christophe sur l'écoute, et je dirais qu'il y a déjà quelque chose de sacramentel dans l'écoute. C'est-à-dire que quand quelqu'un écoute ici, à Lourdes, il le fait au nom du Seigneur, et il le fait au nom aussi de celle qui a parlé à Bernadette. Et du coup, c'est sacramentel au sens où la personne qui vient, elle en a conscience ou pas, mais elle va vivre quelque chose de divin dans cette écoute. C'est-à-dire que je pense à ce que disait une religieuse cistercienne qui était à l'accueil du monastère. Elle me disait, à chaque fois que le téléphone sonne, avant de décrocher, je dis « Jésus, écoute ». Voilà. Ça veut dire que quand j'écoute quelqu'un... Je le fais au nom du Seigneur et je me dis aussi que c'est le Seigneur lui-même qui me parle. Dans ce dialogue, dans cet échange, il y a vraiment quelque chose de sacramentel. Alors justement, pour répondre...
Hervé, juste, je voudrais bien ajouter ça. On n'est jamais deux. On n'écoute pas en binôme, on est deux. Donc la personne qui vient, elle écoutant, mais en réalité, nous sommes trois.
Oui.
Le Christ est présent. Voilà, donc pour moi, c'est très important.
Oui, absolument, absolument. Voilà, alors la question du miracle, c'est ça. C'est
la question. Sort un miracle qui se vit dans cette chapelle des confessions, ici à Lourdes.
Alors, le miracle, c'est souvent de l'ordre d'une transformation dans l'Évangile. Quand Jésus opère un miracle, il guérit. Ou alors, il va transformer. Je pense au miracle de Cana, par exemple. Il prend l'eau qu'il va changer en vin. Voilà, cette eau des ablutions dont on se sert avant de passer à table, et il va la changer en vin, et on sait que le vin, c'est le signe de l'amour. Donc voilà, il va transformer quelque chose. Et ces transformations et ces miracles, ce sont pour moi de vrais miracles. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre avec son poids de péché, de souffrance, de casserole qu'il porte depuis des années, depuis son enfance parfois, et qui va sortir, eh bien, apaisé, guéri d'une certaine manière, eh bien, voilà, il n'y aura peut-être pas eu de guérison physique, pas toujours, mais quoique ça s'accompagne souvent de guérison de symptômes qu'ils avaient avant, hein, mais voilà. Donc, il y a quelque chose dehors d'une guérison, et là, on est vraiment dans le miracle, c'est-à-dire le signe évident que quelque chose est en train de se produire du royaume, c'est-à-dire de l'amour qui transforme et qui libère et qui nous donne déjà accès à la vie en abondance, quoi, cette vie pleine.
Oui.
J'aime beaucoup rêver, entendre que tu soulignes la guérison. Parce que parfois on pense que le sacrement de guérison, c'est l'onction des malades, mais la réconciliation aussi. C'est un sacrement de guérison parce que voilà, notre âme est guérie. C'est beau.
Oui, absolument. Il m'arrive d'ailleurs de faire mention du sacrement des malades quand j'accompagne quelqu'un dans le cadre du sacrement de la pénitence, de la réconciliation. Parce que souvent, de fait, on entend la souffrance. Et je fais mention de ce sacrement en disant aux gens, vous savez, quand on donne l'onction des malades, il y a une formule que l'on dit après l'onction et qui est très belle, qui résume à la fois le sacrement, mais aussi toute la vie chrétienne. « Désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse. Voilà. » Donc, on vient au sacrement pour recevoir une force dans notre faiblesse. Et tout est dit dans cette simple formule. Eh bien, je dis, voilà, vous allez recevoir une absolution, le pardon du Seigneur. C'est la force de Dieu dans votre faiblesse. N'ayez plus peur de votre faiblesse parce que la force du Seigneur est en vous.
Oui, bon, donc moi je suis aussi confesseur, donc je vois aussi sur le visage même de celui qui se confesse cette transformation. Mmh. Et ça m'enchante toujours parce que je vois que Dieu est présent, Dieu agit, et ça se voit même sur le visage de la personne.
Et à l'aspect des transformations, on peut faire le lien aussi, il m'est arrivé de le faire, vous savez, quand on va à la messe, le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Donc, il n'y a pas de transformation biologique ou chimique, mais pour nous, il y a une substance qui est transformée spirituellement. Le corps et le sang du Christ sont là sur la table. Et quand on... Donc, c'est la matière du sacrement, le pain, le vin, qui devient le corps et le sang. Et dans le sacrement du pardon, c'est en fait l'aveu du péché qui devient le lieu de la grâce. Donc, le péché, la force du sacrement, c'est de transformer le péché en grâce. C'est extraordinaire. Dieu a cette puissance qui lui fait transformer notre péché en amour, en pardon et en grâce pour le monde. C'est extraordinaire.
Alors pourquoi parfois on a un peu peur? Vous avez parlé de peur qui n'est pas la même peur, mais certains sont en difficulté face à ce si beau sacrement, parce que ce sacrement, on le présente aujourd'hui dans ce Vivante Église, en ce temps de la période de l'Avent, puisque nous nous préparons à célébrer cette merveilleuse fête du mystère de l'Incarnation, la fête de Noël. Pourquoi y a-t-il un petit peu parfois cette peur de franchir la porte d'un confessionnal, Père Hervé, et puis Père Christophe, puisque vous êtes vous-même aussi confesseur, Père Hervé?
Alors, je pense qu'il y a un peu la honte et peut-être aussi la peur du regard, la peur du jugement. Voilà pourquoi je trouve qu'il y a une très belle formule qu'on trouve dans le rituel du sacrement de la pénitence, qui consiste à demander au prêtre la bénédiction. « Bénissez-moi, mon père, car j'ai péché. » On ne dit pas « punissez-moi, fouettez-moi, donnez-moi une pénitence tout de suite parce que j'ai péché. » Non, « bénissez-moi. » J'ai besoin, pour avouer mon péché, de savoir que je suis aimé. Et il n'y a pas d'autre pédagogie que celle qui consiste d'être sûr d'être aimé pour pouvoir avouer. Voilà la base de tout. Et donc, je pense que, de fait, la peur est liée à la honte, mais qui est une bonne chose aussi. Je crois que c'est le pape François qui disait « la honte prouve qu'on n'est pas pervers ». Voilà, celui-ci. Voilà. Donc, bienheureuse honte et en même temps, bienheureuse bénédiction qui nous fait oublier la honte.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le père Hervé. Parce que j'entends plusieurs fois la confession et aussi au point d'écoute que voilà, j'ai un peu honte de vous dire, mais on commence toujours tout doucement, on ne sait pas comment commencer, comment on sera accueilli par celui qui est en face. C'est très important. Donc je crois qu'avant tout, c'est la honte qui joue en nous cet obstacle à la confession. Mais je pense aussi que c'est normal, un peu, parce que lorsqu'on s'approche de Dieu pour faire une alliance avec lui ou bien pour se laisser renouveler dans cette alliance qu'il a fait lui avec nous, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des esprits qui nous disent « Ah non, tu ne peux pas lui raconter ça, mais il va te prendre pour qui, etc. » Donc, ça joue. Psychologiquement, c'est un facteur important. Et deux, il y en a qui se disent « De toute façon, Dieu ne pourra pas me pardonner. » Donc, presque un désespoir je suis dans les péchés parce que...
Eh oui, alors, tout à fait. Et alors, quand le sacrement permet, au bout de l'aveu, de croire au pardon, parce que souvent, le drame des personnes, c'est celui-là, hein, c'est ce que dit le Père Christophe, c'est-à-dire qu'on croit avoir tellement péché qu'on ne peut pas être pardonné. Et alors là, on a notre sainte fétiche, on cite systématiquement, je crois qu'on le fait tous, hein, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui dit « Mais j'aurais beau avoir commis tous les crimes, ça ne serait qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent de l'amour de Dieu. » Et bien voilà, on est là pour rencontrer ce brasier d'amour qui nous fait relativiser, mais au bon sens du terme, hein, c'est pas le péché, c'est grave, mais l'amour de Dieu couvre...
une multitude de multitudes. On relativise pas du tout le péché. Hein.
Et ainsi, oui, non, ça n'est pas au contraire.
Tout à fait.
Je voudrais dire aussi que je suis confesseur, évidemment, en tant que prêtre, mais je me confesse aussi. Et parfois, je ressens cette honte. Mais qu'est-ce qu'il va penser ? Je ressens, mais vraiment, c'est une belle expérience. Une fois que le péché est avoué, le diable est vaincu. Il a une liberté. Tout de suite, on sent une liberté dans le cœur.
Alors, je vais avoir la liberté, moi, de vous retrouver dans quelques minutes, hein, le temps d'une plage musicale. Et on vous retrouve, vous ne nous quittez pas, vous restez en studio, Père Hervé Rehm et Père Christophe Zeelanda. À tout de suite.
Promis, à tout de suite.
C'est de donner sa vie pour tout ce que l'on aime et ce que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner.
présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de ce Vivante Église aujourd'hui, sur ce thème du pôle écoute hein, et de ce beau service qui se vit au sanctuaire de Lourdes. Et c'est vous, au Père Christophe Zinenda, qui êtes responsable de ce beau service. Hein, parce que vous l'avez rappelé, l'écoute est un lieu aussi de réparation, de résurrection, où on peut poser la souffrance. Tout comme Père Hervé Rem, qui est aussi en studio, chapelain ici à Lourdes. Vous êtes confesseur. Vous rappelez aussi que se vit aussi des guérisons et que la confession, c'est un miracle. Dieu relève dans la confession et Dieu guérit. C'est ce qu'on a pu entendre. Alors, ce n'est pas fini avec eux. Vous formez un très beau binôme dans ce Vivante Église. Dans cette deuxième partie, j'aimerais bien vous interroger aussi sur ces personnes qui viennent soit au pôle confession ou qui viennent déposer une honte, un péché, à la chapelle des confessions. Donc, on va bien distinguer les deux. Hein. Chers auditeurs, notez bien. Il y a dans le pôle écoute de la souffrance. Il y a dans le pôle confession beaucoup de souffrance aussi. Est-ce qu'on peut distinguer un peu les enjeux et ce qui se vit, Père Christophe, dans cette déposition de la parole oui. et déposition aussi des souffrances
oui. Je pense tout de suite à des attitudes de ceux qui viennent pour se faire écouter. Par exemple, quelqu'un peut avoir la tête baissée tout au long de déposition, il ne vous regarde pas, il dit des choses difficiles, il a besoin d'être concentré sur lui-même, on dirait qu'il parle à lui-même, quoi. D'autres peuvent être en colère. Ils viennent pour exprimer la colère parce que quelqu'un leur a fait du mal. Donc, dans notre bureau, au point d'écoute, il y a une table, l'écoutant est d'un bout de table, et de l'autre, il y a celui qui vient pour se faire écouter, pour qu'il y ait quand même une petite barrière en cas de violence, envie d'agresser, parce que vous n'entendez pas, vous ne faites rien, etc. Donc, c'est aussi une forme d'exprimer sa souffrance, un cri. Et après, bon, je dirais que là où je vois peut-être, je dis bien, la différence, Hervé va confirmer ou pas, entre la confession et l'écoute. Dans la confession, on raconte la souffrance que nous nous sommes fait nous-mêmes par les péchés, mauvais choix. Et dans l'écoute, au point, écoute souvent la souffrance qu'on m'a affligée, vous voyez. Donc, c'est ma mère qui a fait ceci, c'est là, ou bien quelqu'un qui était violent avec moi.
La question des abus.
Oui, des abus, etc. Donc, ça peut être très douloureux. Et j'ai dit, ça peut passer l'amplitude entre façon de s'exprimer, la tête baissée, les lunettes noires. Je parle à moi-même. Et voilà, j'ai envie de crier ma souffrance.
Alors, ce que dit le Père Christophe, ça me fait réfléchir. Parce que, de fait, dans le sacrement du pardon, nous avons aussi ce genre de cas, entre guillemets, hein, si je peux me permettre de parler ainsi, de personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont beaucoup subi de souffrances. Mais quand elles viennent à la confession, elles ne viennent pas pour accuser les autres en disant « voilà ce qu'on m'a fait », mais « je n'arrive pas à pardonner voilà. ». Je traîne ça depuis des décennies. On a des personnes, des fois âgées, hein, qui viennent nous raconter ce qu'elles ont subi quand elles étaient enfants ou jeunes, et qui, sans chercher à dire, comment dirais-je, leur haine par rapport à l'agresseur, par exemple, eh bien, vont dire, moi, aujourd'hui, j'ai encore du mal à pardonner. Et c'est avec ça qu'elles viennent, de fait, à la confession. Et je le réalise en écoutant le Père Christophe.
Est-ce qu'on peut dire, puisque vous prenez la parole, que vous êtes tous les deux chapelains ici en mission dans ce sanctuaire et ce confessionnal, est-ce que Lourdes est un lieu particulier, même si la question de la confession reste la confession, est-ce que c'est particulier, Père Hervé ? Qu'est-ce qui se joue ici à Lourdes ?
Je pense pouvoir répondre à cette question parce qu'il y a 2 ans et demi, j'étais encore prêtre de paroisse, curé dans une ville de Mont-Dieu-16, et les confessions que j'avais étaient assez fréquentes au sens où c'était souvent les mêmes personnes qui venaient se confesser et qui souvent donc disaient, comme tous, hein, le même péché. Ici, on a à Lourdes cette grâce de la confession qu'on vient, enfin du pardon qu'on vient chercher pour quelque chose qu'on traîne souvent depuis des années. Voilà. Et alors je pense que la particularité de Lourdes, c'est justement qu'il y a une espèce de porosité entre le besoin qu'on a de recevoir le pardon du Seigneur et le besoin qu'on a de parler et d'être écouté. Voilà pourquoi c'est un peu compliqué parfois de faire la part des choses entre l'écoute, le sacrement du pardon, parce que tout est lié. Mais je comprends mieux, encore une fois, grâce à ce qu'a dit le Père Christophe, j'aborde la confession avec ce problème que j'ai du pardon. Je n'arrive pas moi-même à pardonner.
Est-ce que Lourdes peut être ce lieu qui peut permettre d'aller jusqu'au bout, peut-être, de la démarche
Donc, mis à part la grâce de Lourdes, mis à part donc cette démarche spirituelle qu'on vit à Lourdes, moi j'ai l'impression que voilà, quelqu'un qui a passé la matinée à la grotte, après il cherche soit la chapelle de la réconciliation, soit un point écoute. Mis à part cela, je voudrais souligner aussi le fait que dans une paroisse, je vais parler au prêtre ou bien à une personne du point écoute, je suis dans la même communauté avec cette personne. Parfois aussi, ça fait un obstacle, non? Parce que je rencontre le curé tous les dimanches, etc. À Lourdes, souvent, on écoute quelqu'un, il s'exprime librement, et c'est une seule rencontre avec quelqu'un dans la vie. Donc, je sais que je vais partir avec ça. Tout ce que je dis à ce prêtre ou bien à ce laïc, ce écoutant, je vais partir et je peux librement donc parler. Après, on n'a pas dit ça, mais c'est important quand même de souligner que un confesseur ne peut pas se permettre de rester au confessionnal avec une personne pendant une heure, même si ça peut arriver. Hein, ça peut arriver.
Ça peut y venir.
Mais ça arrive. Mais... au point écoute, vous avez tout votre temps.
Alors oui, c'est important, mais je n'avais pas oublié, Père Christophe. Voilà, on parlait de 45 minutes de temps d'écoute au point accueil, quand on accueille donc une personne. Quelle est... Permettez-moi, comme le temps peut-être d'une prédication le dimanche, quel est le temps pour une confession voilà.
Alors, je pense que c'est à moi de répondre, mais c'est
bien sûr, oui.
Ça va être
très, c'est votre, ça va être, rôle.
Ça va être très difficile parce que je suis en grande difficulté par rapport à cette question-là. Parce que moi-même, je n'arrive pas à mettre en pratique cette loi que je comprends complètement, qui est d'aller non pas vite, mais de permettre à d'autres de pouvoir se confesser, parce qu'il y a une file d'attente, entre guillemets, importante. Et voilà. Et puis, la nature de l'échange est moins de l'ordre du dialogue psychologique que de l'ordre vraiment du sacrement. Je viens chercher le pardon pour les péchés. Voilà. Mais les personnes qui viennent ne sont pas forcément au parfum, elles ont envie de parler. Et il faut, au bout de quelques minutes, on comprend qu'elles ont envie de parler et il faut avoir la délicatesse de leur dire « Bon, bah, écoutez, voilà, maintenant, il y a d'autres... Voilà. »
Bah, et c'est là.
Rendez-vous au centre roux.
Voilà, la délicatesse, c'est ça, de l'art qu'il faut avoir. Dire à la personne sans vraiment lui couper la parole, sa démarche. Dire « Écoutez, il y a un point écoute, il y a des personnes qui sont formées dans l'écoute spirituelle. Peut-être vous pouvez exprimer votre souffrance. » Devant cette personne-là. Là, nous sommes dans le cadre d'une confession, donc au nom de Dieu, je vous pardonne tout ce qui est péché que vous apportez.
Voilà. Et en même temps, c'est vrai qu'il peut arriver qu'on soit devant un cas qui nous interdit de renvoyer trop vite à un autre lieu. Pourquoi ? Parce qu'on sent que la personne vient de dire en confession quelque chose qu'elle ne va peut-être pas répéter tellement. C'est important. Voilà. Et du coup, on se dit, ben, tant pis, Dieu me jugera si je dépasse, le temps est parti. Mais c'est rare, ça reste rare, mais ça arrive qu'on se dise, ben, tant pis, les personnes risquent d'attendre, mais je ne peux pas expédier comme ça, il me faut un minimum de temps.
Ah oui, parce que chaque cas est unique. Hein, donc, nous donner quand même cette liberté.
Voilà. Et c'est quand même, on est sur une corde raide, hein, on est vraiment sur une ligne de crête, il faut faire attention, il faut. Comme dit, c'est un art, Christophe le disait, c'est quand même tout un art de savoir écouter avec un minimum de rigueur quand même.
Donc on entend bien quand même que pour tous les prêtres, il faut cet art quand même de l'écoute. Et au fond, être formé, si on n'est pas assez formé, j'en reviens au confessionnal et je reviens vers vous, Père Hervé Hérem, décidément, Est-ce que vous donnez toujours l'absolution ou vous arrive-t-il aussi de ne pas donner l'absolution parce que ça ne se présente pas?
Alors, il peut arriver qu'il n'y ait pas de matière à donner le pardon. Et là, du coup, on discute avec la personne. On leur dit, ça arrive rarement, mais les personnes viennent, elles font la confession des autres. Là, alors, je ne peux pas donner absolution pour les autres. J'essaie d'expliquer aux gens que ben voilà, c'est sa propre confession qu'on est en train de vivre. Donc, du coup, après, je négocie. Ça m'est arrivé depuis que je suis à Lourdes une ou deux fois, hein, simplement. Hein. Et je dis aux personnes, je pense que vous avez besoin d'une bénédiction, que le Seigneur vous donne sa force. Donc, je vous propose de vous donner une bénédiction. Je n'entends pas la reconnaissance formelle d'un péché, et du coup, voilà. Mais ça se négocie avec la personne.
Je vais vous surprendre peut-être, mais il m'est arrivé d'écouter une confession, très lourde, je dirais comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de souffrances. Et à la fin, la personne dit, je ne vous demande pas l'absolution. J'en ai besoin encore de continuer ma démarche. Bon, je dis, ben écoutez, je vous bénis, donc, parce qu'on ne peut pas se séparer comme ça. Donc, oui, il se peut que la personne elle-même vous dise, bon, écoutez, j'avais besoin de vous parler, de confesser mon péché, mais cependant, j'ai encore besoin d'attendre ce moment où le fils prodigue revient à la maison de son père. Je dirais comme ça, vous voyez. C'est le moment quand même qui est, pour l'instant, la personne regarde vers la maison de son père. Et elle calcule, voilà, ces moments ou pas encore, qu'est-ce que je fais?
Alors, j'imagine que des auditeurs vous écoutent, Père Hervé, Père Christophe. Certains ont peut-être de la colère en entendant aussi des prêtres aborder aussi. Je trouve que c'est un beau thème, que ce sacrement aussi de confession, puisque nous avons parlé tout au début de cette émission de Vivante Église, et vous avez rappelé tous les deux que c'est un sacrement et source de guérison, et au fond, on a parlé de miracles. Ici, à Lourdes, on ne peut parler que de miracles. Hein.
Je crois qu'on pourrait presque même parler de résurrection, parce que ces miracles sont des relèvements. Le Seigneur, tout au long de sa vie, quand il rencontre un malade ou une personne brisée, on le montre en prenant la main de la personne et la faisant se lever. Mais ça veut dire que cette résurrection qui nous attend au terme de notre route, on verra comment, elle commence aujourd'hui quand, de pécheur que j'étais, je me sens aimé au point de pouvoir me relever et repartir. Et du coup, c'est ça, c'est vraiment, on est déjà dans la vie en abondance, dans la vie éternelle qui nous est promise en fait.
Alors, comment commencer une confession quand je ne me suis pas confessée depuis 20 ans, 30 ans, voire 40 ans,
60.
Ou 60 ans, oui. Cher Père Christophe et Hervé.
Bon, je te laisse la parole, Hervé.
Oui.
Alors, ben souvent les gens arrivent en disant, soit je ne me suis jamais confessée.
Vous êtes écouté, hein?
Oui.
Vous êtes écouté.
Oui. Ah, je ne vais pas raconter le détail de ce qu'on nous dit. Que l'on se rassure, mais voilà, c'est souvent des gens qui nous disent « je ne me suis jamais confessé », ou alors ben voilà, ça fait 20 ans, 30 ans, très longtemps, avec peut-être un peu aussi, pour certains, cette angoisse de se dire « je vais me faire engueuler parce que ça fait longtemps que je ne me suis pas confessé ». Mais pas du tout, c'est une joie. Après 60 ans, revenir comme le fils prodigue, mais c'est extraordinaire de pouvoir s'entendre dire que Dieu nous aime et que la vie repart. C'est une chance extraordinaire qu'on se donne. Donc, on commence. Moi, presque, j'ai envie de féliciter les gens en disant « ça fait 30 ans et vous êtes là. Bravo, formidable. »
Alors, si un auditeur vous écoute maintenant, on est dans cette période du temps liturgique de l'Avent, on se prépare aussi à cette très belle fête de Noël, mais cette personne qui vous écoute maintenant hésite peut-être à faire ce pas vers le confessionnal ou à revenir vers la confession. Que lui diriez-vous, Père Christophe et Père Hervé? Et merci à tous les deux.
Je commence.
Pour votre bonne entente et votre bonne coopération, vous reviendrez.
Oui, bon, d'accord. Je pense que le temps de l'Avent, souvent, il est vu comme faisant des efforts pour revenir vers Dieu et tout ça. Or, pour moi, c'est le temps où Dieu vient visiter son peuple. Dieu vient vers nous. Dieu s'approche de nous. Vous voyez, il suffit d'ouvrir le cœur. Alors, je crois que c'est un temps qui est vraiment favorable pour la confession. Ce qui nous revient, c'est de faire cette démarche, d'ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu. Donc, aller au confessionnal. Le reste, c'est celui qui fera. C'est le temps fort, on dit, dans la liturgie.
Je veux dire exactement la même chose, mais peut-être avec d'autres mots. J'aurais envie de dire aux gens, mais tu viens, non pas te préparer à Noël, mais il vient célébrer Noël en venant te confesser. Parce que justement, le Dieu qu'on célèbre à Noël, c'est le Dieu qui est descendu. Il n'attend pas qu'on soit parfait comme lui, mais il vient, il descend vers nous. Et c'est ça, Noël. C'est la fête d'un Dieu qui vient dans une crèche, c'est-à-dire dans un lieu d'imperfection, comme ici à la grotte, hein, c'était le lieu le plus, entre guillemets, malfamé de Lourdes. Et c'est là que Dieu vient. Donc, n'aie pas peur de t'approcher de la confession. Tu seras déjà en train de célébrer Noël.
Et quels sont les fruits d'un tel sacrement? Vous l'avez bien présenté, et puis ce sacrement peut être vécu ici, en particulier à Lourdes, Père Hervé et Père Christophe.
Moi, je dirais que le fruit, c'est la vie éternelle. Voilà. Tu veux la vie éternelle, elle t'est offerte. C'est la vie éternelle, c'est l'amour en abondance.
J'ai déjà éprouvé la joie de la vie éternelle ici, sur la terre. La joie d'être proche de Dieu.
Alors, chers auditeurs, c'est un cadeau de vous recevoir, Père Hervé Rem et Père Christophe Zelienda, dans ce Vivante Église, dans la joie de recevoir ce beau binôme de deux frères chapelains, de deux frères prêtres. Je vais vous demander à tous les deux, si vous le voulez bien, et c'est ainsi que nous achevons ce Vivante Église en cette période du temps de l'Avent, une bénédiction pour tous les auditeurs qui vous auront suivi aujourd'hui. Donc je vous laisse peut-être à tous les deux, à deux voix, faire cette bénédiction. Et merci à tous les deux.
À toi qui nous écoutes, sache que le Dieu est plus grand que notre cœur. Si ton cœur t'accuse, comme disait Saint Jean dans sa lettre, eh bien sache que Dieu est plus grand que ton cœur. Et que sa bénédiction descende sur toi pour que tu retrouves la confiance que tu as peut-être perdue et qu'il te donne de marcher à sa suite et de te relever comme l'enfant qui, après être tombé, est reçu dans les bras de son père, encouragé à reprendre la route.
Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
Merci à tous les deux.
Merci.